Salut à tous et bienvenue dans cette chronique des composants, cette nouvelle chronique des composants. Nous l'enregistrons le 2 juillet 2015. Je suis Guillaume Vendée et comme dans toute bonne chronique des composants qui se respecte, j'ai en face de moi Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Eh bien salut, bonjour à tous.
Alors, on n'a pas fini de se déshydrater parce qu'on enregistre évidemment la chronique des composants juste après Tech Café que vous avez forcément entendu probablement la semaine dernière. Et il fait donc évidemment très chaud, on est en pleine canicule. Et ben, c'est pas grave, on ne recule pas devant l'adversité. Pour vous parler des évolutions de ce monde merveilleux de la microélectronique, à commencer Guillaume par les futures versions des processeurs d'Intel.
Eh bah ouais, parce que ça s'arrête jamais, c'est chiant même à force. Oh là là, donc le prochain processeur d'Intel s'appellera comment ? Il s'appellera le Core i7 6700. Et en fait, ce sera la génération Skylake, donc nouvelle architecture, enfin après a priori. Et ça sortira en août. Donc c'est pour bientôt, et là, les enthousiastes, les gamers vont être contents. Parce qu'autant Broadwell, la dernière génération, était sortie un petit peu avec une optique économie d'énergie, je me la joue portable et tout. Autant là, Skylake, ça sort pour les gamers, avec un Core i7 à 4 GHz. Prêt pour la DDR4, un truc quand même bien, bien sympa, un turbo boost qui monte à 4,2 Go. Bon, c'est pas si incroyable, puisque finalement le Core i7-4790, qui était un petit peu le fer de lance avant, atteignait à peu près tous ces trucs, quoi. Mais disons qu'on a, donc un refresh avec donc un processeur qui est toujours en 14 nano, mais qui apportera un petit surcroît de puissance. Et puis surtout, on aura 8 mégas de cache, on aura des nouvelles instructions, et on aura bien entendu un nouveau chip graphique intégré, tout ça, c'est absolument formidable, et ça vous attend le 18 août.
Et ça veut dire que ça débarquera concrètement dans nos machines le 18 août, ou ça veut dire que c'est dispo d'un point de vue industriel le 18 août ?
En fait, non, c'est non. En fait, il sera montré probablement à l'IDF à nouveau le 18 août.
D'accord.
Okay. Ouais, donc on le verra vraiment tourner, tout ça. Il faudra attendre quelques semaines pour pouvoir en acheter.
Donc ça, désolé, c'est hein. Bon. Écoute, non, quand même, on les verra tôt ou tard arriver. Mais en tout cas, ça c'est pour le 14 nanomètres. Et puis tu as aussi du nouveau sur le 10 nanomètres. Là, c'est peut-être un peu plus chaud, tu me disais.
Ben en fait oui, puisque le Skylake c'est du 14 nano, donc le même truc que Broadwell, c'est pour l'instant donc on change le truc, mais évidemment on le sait, hein, Intel s'attache à essayer de tous les deux ans faire donc une de la miniaturisation, et alors il devrait passer au 10 nanomètres avec le Cannon Lake, qui devrait être donc la prochaine architecture, enfin le prochain processeur d'Intel après Skylake. Eh bien, apparemment, il semblerait qu'il y ait des petits soucis, puisque il est possible qu'on attende une année de plus avant que Cannon Lake arrive, et qu'il y ait un processeur qui s'intercalerait entre, finalement, Skylake et Cannon Lake, qui s'appellerait Kaby Lake, et qui serait un refresh, un petit peu, finalement, comme Broadwell avait été un refresh d'Aswell. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu la même chose, et c'est peut-être, finalement, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que bah, c'est de plus en plus compliqué hein, de miniaturiser aux échelles où on est, et comme Intel avait un peu de retard sur le 14 nano, il est possible qu'il ait un peu de retard sur le 10 nanomètre aussi. Bon, ça viendra, mais il faudra être un petit peu patient, et bon, mais il y aura sans doute un processeur bouche-trou au milieu.
C'est marrant cette histoire de processeur bouche-trou, parce que ça donne l'impression, j'en sais rien, enfin tu sais, à une échelle de production de produits courants, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas forcément de bonne analogie en tête, mais de dire, oh bah tiens, c'est peut-être un peu ambitieux, on va faire entre les deux dans un premier temps, enfin on va faire la moitié du chemin, mais ça se décide pas comme ça. Ça veut dire que, enfin, ce que t'es en train de décrire, c'est pas Intel qui est en train de se dire du jour au lendemain, oh tiens, on va pas forcément y arriver tout de suite, donc tiens, lançons ça d'abord. J'imagine que c'est des plans qui sont prévus depuis belle lurette et qui sont pas en train de créer des processeurs, des architectures de structures intermédiaires du jour au lendemain. C'est des choses qui sont largement planifiées, non?
Ben en fait, non, enfin, plus ou moins, c'est-à-dire que le plan global, c'est le TikTok, c'est, on a d'une année sur l'autre, on a, donc voilà, on a une année, on a un changement d'architecture, et l'autre année, on a la miniaturisation. Et en fait, ben, il arrive qu'il y ait des soucis, et quand il y a des soucis, ben, il y a des backups, quoi.
C'est
des je pense qu'ils ont des backup plans au cas où ils n'y arriveraient pas, parce que bon, ben, c'est de l'ordre du possible, quoi, puis ça leur est déjà arrivé, donc voilà, ils ont...
Preuve en est.
Oui.
Ok, ça c'était du côté de chez Intel, et puis t'as du nouveau aussi du côté du futur de chez AMD.
Oui, AMD n'est pas mort, il n'a pas encore été racheté par personne,
même s'il y a
de plus en plus de rumeurs, même Microsoft pourrait s'y mettre, alors c'est pas grave. Et oui, c'est le dernier, la dernière rumeur en date. Hein, Microsoft pourrait racheter AMD. Bon, alors, c'est pas encore fait.
Très bizarre quand même, non ?
Oui, bon, bah, oui.
Pas
oui.
Plus bizarre que d'autres rumeurs que tu nous avais présentées.
Ouais, façon. Finalement, ouais. Honnêtement, je me prononce pas. Je sais pas trop. C'est pas si évident, finalement. Et bon, donc, du coup, bah oui, hein, qu'est-ce qu'il faut AMD ? Bah, AMD, il rame, hein, faut quand même le dire, puisque ils vont quand même. Donc, ils vont présenter leur prochain APU. Donc, chez AMD, en fait, ils fabriquent des APU. C'est-à-dire, des SoC, c'est-à-dire des systèmes sur puce, où il y a non seulement le processeur, mais aussi la carte graphique, et c'est un petit peu leur point fort, puisque la carte graphique est beaucoup plus efficace que celle que, en tout cas pour le moment.
Ça parle mieux parce qu'elles sont faites ensemble, quoi.
Voilà, et puis surtout AMD a beaucoup d'expérience puisqu'il a racheté ATI, ils ont beaucoup d'expérience dans les cartes graphiques, et Intel petit à petit rattrape son retard, mais bon voilà, ça reste quand même un facteur disons différenciant. Et donc AMD va faire encore un processeur en 28 nano. Et cette fois, par contre, cet APU, à la différence des APU qui sortent d'habitude, c'est un APU avec un gros cœur, puisque le cœur sort un cœur de type Excavator, qui est la... Alors, il faut savoir que, en fait, chez AMD, il y a, comme chez Intel d'ailleurs, plus ou moins, il y a deux types de cœurs, il y a les petits et les gros. Les petits, c'est pour les portables, les ultrabooks, c'est les Puma, c'est les architectures qui sont beaucoup plus simples, qui consomment beaucoup moins et un peu à l'image des atomes et qui sont destinés donc aux petits modèles. Et puis il y a les gros cœurs comme les Core chez Intel, et c'est la ligne Bulldozer qui s'appelle comme ça, hein, qui s'appelait comme ça Bulldozer, mais qui s'appelait aussi après Steamroller, puis maintenant Excavator.
C'est mignon, c'est que des noms mignons, je trouve.
Voilà, c'est très mignon effectivement.
C'est ou des noms de tracteurs ou des noms effectivement de
qu'est-ce que tu veux, c'est chacun son truc, je sais pas, le gros tracteur, ça donne une impression de puissance.
Ouais, Excavator, t'as l'impression que tu vas creuser des galeries entières. Non, c'est
exactement,
très...
exactement. Et du coup, Excavator, c'est le prochain gros cœur d'AMD qui sera pourtant dans un APU. C'est-à-dire, il y aura une mini carte AMD, une mini Radeon qui sera avec, hein, comme si c'était un APU Puma. Mais par exemple, mais disons que ce sera un cœur beaucoup plus complexe et qui sera destiné à des laptops de beaucoup plus haut de gamme, on va dire, que les APU qu'il y avait avant, quoi. Néanmoins, ils sont pas réellement destinés à concurrencer les Core i7. Les derniers Core i7 d'Intel.
Ok.
On est plutôt dans un secteur milieu de gamme. Et donc Carrizo qui va sortir donc très prochainement apporte quand même son lot d'innovation, parce que il faut quand même beaucoup réfléchir parce que à 28 nanomètres on a un gros handicap par rapport à Intel qui est à 14.
Ouais.
Et donc du coup il y a un certain nombre de trucs qui sont assez intéressants. Donc par exemple Excavator utilise une nouvelle manière en fait de designer ses puces. Ils utilisent une nouvelle librairie, en fait, une nouvelle librairie qui permet d'utiliser des blocs beaucoup plus compacts, une librairie qui permet d'utiliser des modules, en fait, des modules fonctionnels, beaucoup plus compacts, qui lui permet de gagner 30%, par exemple, rien qu'avec ça, de gagner 30% d'occupation du die. Donc, c'est, la puce est plus petite, et donc, elle consomme moins, rien qu'en utilisant cette librairie-là. Du coup, ils utilisent quand même pas moins de 8 couches métalliques sur le processeur, qui est quand même assez impressionnant. Donc sur un 28 nanomètres, ça permet vraiment de...
Ce serait possible sur des 14 nanomètres, des 10 nanomètres sur...
D'accord. Oui, probablement.
Donc en plus, ouais, l'évolution peut être d'autant plus puissante si jamais elle se propage sur d'autres formats, quoi.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, bon, ils changent de méthode, si tu veux, pour adapter, par exemple, l'énergie qui est consommée par la puce. Donc, il faut savoir que, par exemple, chez Intel, on utilise le Dynamic Frequency and Voltage Scaling, le DVFS, qui est un truc assez, alors, bon, qui marche pas mal, hein, faut quand même le dire, mais qui est un petit peu taillé à la serpe, hein, puisque on a des scénarios de fréquentiel, donc à telle fréquence, le processeur consomme tant, et donc il adapte son voltage à la charge de manière assez brutale, comme ça, tu vois, avec des paliers comme ça, assez brutaux. Et AMD, pour lui, essaye d'utiliser l'AVFS, c'est-à-dire l'Adaptive Voltage and Frequency Scaling, qui permet en fait de faire ça de manière beaucoup plus douce, et de s'adapter en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a des mesures en temps réel, en plusieurs points du cœur qui sont faites, et on adapte comme ça l'énergie consommée par la puce en fonction d'une série de capteurs et de manière en temps réel, quoi. Donc ça se fait de manière beaucoup plus souple et ça permet de gagner encore un petit peu d'efficacité, quoi. Ce qui est ce qui est assez sympathique. Bon, alors il y a plein d'autres trucs, hein, voilà. Mais disons que c'est une puce qui apporte aussi, par exemple, un décodeur H265. Donc j'ai parlé du H265 ici, hein, c'est le successeur du H264, hein, donc c'est l'encodeur vidéo pour la très haute définition, la 4K et compagnie. Donc le décodage se fait donc en hardware sur cette puce-là, alors qu'elle doit être fait en software sur les autres puces qui ne sont pas équipées. Donc ça prend énormément de puissance, en fait, parce que c'est quand même assez compliqué. Et puis il y a aussi des choses amusantes, comme par exemple des petits bouts de logique qui ont été rajoutés pour prendre en charge des tâches extrêmement simples comme le redimensionnement de l'image lors d'une lecture vidéo, qui permettent de ne pas utiliser le GPU et donc d'économiser encore un petit peu d'énergie, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de boulot qui a été fait par AMD, qui c'est probablement un processeur qui peut tirer son épingle du jeu s'il est proposé à un tarif compétitif, quoi.
Oui, ok. Merci Guillaume. Il y a un lien assez intéressant qu'on mettra évidemment dans les notes de l'émission. C'est un bon gros benchmark qui peut vous occuper, comme tu l'as mis dans les notes de l'émission, une bonne partie de l'été, j'en suis sûr. Et puis sur lesquels tu vas nous faire des petits focus qui sont parfaitement remarquables. Mais c'est du benchmark. Alors quand on parle de benchmark, souvent on compare un peu les produits du moment pour savoir lequel est le plus intéressant, le plus puissant, le plus économe en énergie. Et là, c'est carrément 11 ans de benchmark qui ont été rassemblés.
Eh ouais, 11 ans, putain. T'étais où à 11 ans? Tu t'en souviens?
Alors, il y a 11 ans, je bossais, ouais. Mais il n'y a pas longtemps que je bossais, en fait.
Eh ouais, mais il y a 11 ans, moi, j'utilisais encore un Pentium 4.
Et ah donc, oui, oui.
Et donc, c'est intéressant de voir. Alors,
ouais, parce Pentium 4, tout ça, c'était pas mal, d'ailleurs.
C'était une bête à l'époque. Hein. Un portable qui devait peser au moins 5 kilos et qui me servait de bouillotte l'hiver sans aucun problème.
C'est clair.
Et donc on peut se demander, alors du coup voilà, on se dit toujours la loi de Moore, tout ça, les ordinateurs ils doublent de puissance tous les 10 ans, tous les 2 ans pardon, tout ça.
Bon, me dis pas que c'est faux, me dis pas que c'est des foutaises.
Alors est-ce qu'on peut essayer d'avoir une idée précise de ce truc là? Et ben c'est là que le benchmark fait par Foronix est très intéressant, puisque Foronix a 11 ans. Et ils ont testé des processeurs. Hein. Et donc, ils ont mis en perspective des vieux trucs, comme le Pentium 4, un Pentium 4 à 2 Go 8, comme celui que j'utilisais, et des processeurs modernes, extrêmement puissants, ou moins puissants, mais très économes, comme des Tegra ou des Atom modernes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que...
Alors, oui, sur la méthodologie, qu'est-ce qu'ils utilisent comme plateforme logicielle? Parce que du coup...
Oui,
on
bien
peut imaginer
sûr.
Que des plateformes logicielles aient évolué et elles aussi se soient optimisées avec le temps, etc.
Oui, alors enfin, le truc c'est que ils utilisent des trucs assez classiques, en fait, de l'encodage vidéo, hein, avec X264. Ils utilisent aussi des tests de compilation. Ils compilent le noyau Linux avec un bon vieux compilateur. Ils voient le temps que ça prend. Il y a aussi des tests qui sont faits avec la compilation d'Apache aussi, donc
c'est
des tests de compilation. Donc tout ça, ça reste
un logiciel pour les serveurs web notamment.
Oui, info. Voilà, tout à fait. Ils utilisent aussi donc des rendus graphiques en ray tracing, par exemple. Enfin voilà, de l'audio, de l'encodage audio en FLAC, etc. Bon, voilà, donc c'est des choses qu'on utilise depuis à peu près toujours.
Okay.
Et bon, on va dire que, c'était déjà assez optimisé à l'époque. Enfin, tu vois, l'optimisation, à mon avis, ne rentre pas vraiment en ligne.
D'accord,
de compte,
ok.
Quoi. Donc on a quand même un truc assez
objectif fiable. Qui permet de comparer de la puissance brute et de la puissance matérielle, quoi.
Oui, voilà, exactement. Okay. Et donc, ils ont divisé finalement leur série de benchmarks en deux parties. Une partie grosse et une partie petite. La partie grosse compare à des gros processeurs, c'est-à-dire des processeurs qui étaient en leur temps de gros machins, des processeurs puissants qui étaient censés...
Faire de lance, quoi. Enfin,
voilà, des navires amiraux, un petit peu, en tout cas, bon... En partie. Et donc, si on compare un Pentium 4 à 2 GHz dans le cadre, par exemple, d'un encodage en H264, un pauvre petit Pentium 4 est capable d'encoder 8 images par seconde en H264.
Pas mal déjà.
C'est pas mal, c'est pas si mal, effectivement.
C'est pas mal.
Néanmoins, si on le compare à un Core i5 2500K, qui est un processeur milieu de gamme, Sandy Bridge, hein, donc c'est un milieu de gamme d'il y a 2 ans.
Ouais.
Il en encode 103, presque 104, Si on va plus loin et qu'on regarde le fer de lance actuel des Core i7, disons grand public, qui est le Core i7 4770, lui il en encode 187. Et quand on passe carrément au processeur serveur, c'est-à-dire au Xeon E5, il en encode 301.
C'est vrai que c'est dingue.
Donc on passe de 8 images par seconde à 301 images par seconde si on prend les processeurs les plus puissants. Et non, bon, même ça... si on reste dans le truc normal, on passe de 8 à 103. Donc on va dire qu'on a quand même globalement un écart de 10 fois.
Bon, objectivement, la progression est assez incroyable. Et puis bon, il n'y a qu'à regarder. Mais c'est marrant, dans mon esprit, je me serais imaginé qu'il y aurait eu des plus grosses différences. Tu vois ce que je veux dire ? Je me serais imaginé qu'entre un Pentium 4 d'il y a 10 ans et les processeurs d'aujourd'hui, la différence aurait été, je sais pas, mais c'est très naïf, hein. Elle aurait été de fois 1000, quoi, tu vois.
Mais écoute, alors, si on regarde, par exemple, je suis assez d'accord avec toi, et donc on va continuer. Si on regarde le rendu retracing, donc le rendu d'une image de synthèse, qui est aussi hyper consommateur de calcul, un Pentium 4, pour rendre une image, donc avec C-Ray, il met 345 secondes. Bon, une image de test, bien sûr.
Oui, parce que sinon, jouer avec un rythme de rafraîchissement d'image de tous
voilà,
les 345 secondes, ça doit être vite lassant.
Une image de synthèse en ray tracing de test qui met 345 secondes sur un Pentium 4. Elle met, donc, par exemple, sur le Core i7 4767, 22 secondes.
Ouais.
Et sur le serveur, sur le processeur Xeon E5, elle met 11 secondes. Donc effectivement, si on se pose 2 minutes, on se dit, bon, si on compare avec un processeur qui n'est pas un processeur de la NASA, qui est encore accessible, on a un facteur qui est un peu inférieur à 10 en fait, hein, puisqu'on passe de 345 à, si on regarde un Core i7 2400, à 45. Donc en fait, on a un écart qui est un écart globalement, pour fixer les idées, d'environ 10, ce qui n'est pas non plus
On est loin du millier dont je parlais,
enfin,
un chiffre complètement arbitraire.
Exactement. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est d'essayer de voir si on peut comparer ça à d'autres types de processeurs. Non, la comparaison petit, c'est-à-dire la comparaison qu'ils ont fait avec les processeurs ARM, par contre, elle est quand même assez intéressante. Alors, il y a d'une part la comparaison en puissance avec les
puissances de calcul,
et d'autre part il y a la comparaison avec la consommation. Et c'est là que en fait les choses deviennent vraiment intéressantes, je trouve, parce que si on compare avec les processeurs petits, c'est-à-dire des processeurs qui pourraient être dans votre téléphone mobile ou qui pourraient être dans votre tablette, on a donc une comparaison directe avec par exemple un Pentium 4 en encodage vidéo et un Tegra K1 qui est un processeur de tablette en fait, hein. Et donc si on compare un Pentium 4 à 2,8 Go qui fait donc 8 images par seconde en x64 et qu'on le compare à un Tegra K1 qui est un processeur de tablette, le processeur de tablette atteint 34 images par seconde, presque 35.
Ouais.
Si on regarde le Compute Stick, qui est donc basé sur un Atom qui est là aussi un processeur de tablette et qui tient dans une clé USB, je rappelle, le Compute Stick est une clé USB, la clé USB Compute Stick est capable d'encoder 2 fois plus rapidement que le Pentium 4.
Ouais,
et c'est là qu'on se souvient que le Pentium 4, c'était un truc monstrueux en fait, qui consommait énormément, qui chauffait comme un malade, et qui est doublé et qui est massacré par des processeurs de tablettes aujourd'hui.
C'est dingue.
Et quand on regarde la consommation électrique, puisqu'elle a aussi été mesurée, pour le même travail donc d'encodage en 64, un Pentium 4 à 2,8 Go consomme en moyenne 117 watts, alors que le Compute Stick en consomme 6.
C'est là où, effectivement, alors quand on préparait l'enregistrement, tu me décrivais un peu ces éléments, ces orientations. Moi, je trouve que c'est presque là où ça m'impressionne le plus, parce que bon, la puissance brute qui évolue dans le temps, etc., dans les rapports que tu indiques, c'est intéressant, mais surtout, cette économie d'énergie est assez bluffante, et c'est là où on voit que c'est révélateur quand même des évolutions et des innovations de ces dernières années, ou plutôt de cette dernière, évidemment, décennie, qui est un glissement de la production informatique vers vraiment la mobilité, quoi. S'il y avait besoin d'un chiffre qui permettait de révéler ça, c'est sans doute ce benchmark du coup.
Bah écoute, oui, d'autant plus qu'ils sont allés ils ont bien fait les choses, puisqu'ils ont quantifié l'efficacité énergétique en fait en calculant le en dans le cadre du travail de l'encodage, le nombre d'images par seconde par watt.
D'accord, donc la mise pour en rapport de la puissance consommé, de calcul voilà. et de la consommation énergétique. Voilà.
Pour chaque watt consommé, combien d'images on peut encoder par seconde avec tel ou tel processeur.
Ouais.
Avec un Pentium 4, on peut encoder 0,07 images par seconde par watt.
Ouais.
Avec un Core i3 qu'on trouve dans une NUC, c'est-à-dire un mini PC d'Intel, on encode 4,14.
Ah, d'accord.
Et dans un compute stick, 2,9. C'est-à-dire qu'on a une multiplication par 60 de l'efficacité énergétique des processeurs entre maintenant et il y a 10 ans.
Et là, pour le coup, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une fondamentale différence. Et puis, quand tu commençais à vraiment... Enfin, quand tu commençais tout au long de tes chroniques des composants, le facteur consommation est vraiment un facteur qu'on avait identifié et qui apparaît vraiment là, dans ce benchmark, de manière assez impressionnante. Merci beaucoup, Guillaume. Quelque chose qui va sortir un petit peu de la chronique des composants, puisqu'on va pas forcément parler que de microélectronique, même si le fond du sujet est lié à la microélectronique, c'est peut-être un petit peu... Quand tu revends un téléphone, Guillaume, on est d'accord, on le réinitialise, il faut effacer un petit peu et remettre dans les conditions d'usine à zéro quand on le revend, c'est plus propre.
Exactement, c'est plus propre, oui.
Voilà, et on s'imagine évidemment que toutes nos données ne sont pas conservées sur le téléphone. Qu'en est-il exactement ?
Ben oui, c'est l'été, alors un petit truc avant l'été, vous perdez votre portable pendant l'été, c'est des choses qui arrivent. Hein. Vous perdez votre ordinateur, c'est l'été, on ne fait pas attention,
on le revend, on en change, on le revend, on a un peu de temps.
Exactement, ou on le fout sur eBay parce que justement on en veut un de mieux pour épater les nanas. Bon. Eh ben, le truc, c'est que l'appel, effectivement, c'est attention à vos données. Donc, évidemment, je suppose que la plupart de nos auditeurs sont bien au courant qu'il faut tout effacer, bien entendu, avant de vendre votre téléphone, que vos données sont précieuses et qu'elles doivent rester privées. Donc, bien entendu, la plupart, je suppose, vont aller dans les réglages d'Android et faire un factory reset.
Ou même des iPhones, j'imagine que c'est...
Oui, aussi, bien sûr. En l'occurrence, là, c'est sur Android. Ce que je vais dire est aussi vrai sur un PC, tout simplement. Ouais, sur un PC portable que vous vendez, en fait, c'est à peu près la même chose. Donc, si vous faites un factory reset, et donc là, effectivement, vous avez le petit machin et le petit Android avec le bide ouvert, et hop, boum, c'est parti. Vous croyez que tout est fini. Bon, et bien en fait, des mecs d'Avast ont fait une expérience, ils ont acheté 20 smartphones Android sur eBay, sur lesquels ils ont installé une application de récupération sur leur PC, parce qu'ils se sont dit, bon, ils étaient vides, hein, bien sûr.
Ça se trouve facilement, des applis de récupération comme ça, au passage ?
Ah ben oui, grâce à Google, ça fait en deux clics.
D'accord.
Je peux même te dire à quel outil ils ont utilisé. Ils ont utilisé Scalpel, c'est un outil Linux.
D'accord.
Mais y en a plein sur Windows aussi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il hein. y en a plein des trucs de récupération qui sont d'ailleurs très utiles quand on fait des fausses manips ou quand il y a des problèmes. Hein,
ouais, ouais.
Mais là, pour le coup, ils ont donc acheté ces 20 smartphones qui étaient tous vides et ils ont récupéré 40 000 photos, 1500 c'est photos énorme. D'enfants, 1000 photos de personnes à poil, une vie de requête Google, 750 SMS, 250 contacts, etc.
Donc, 1500 photos de personnes à poil.
Ouais, un petit millier de personnes, voilà. Donc, effectivement, il y a un souci. Le souci, c'est que finalement, il efface, le truc Android de base, il efface pas tout. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de trucs en plus. Donc, le truc, c'est virer vos cartes SD de vos téléphones et utiliser des outils. Qui sont donc disponibles sur le Google Play. Il y a des outils qui permettent d'effacer de manière vraiment profonde les données. C'est très long, souvent, si c'est vraiment très efficace, c'est très long, mais ça permet de protéger la vie privée, et c'est quelque chose qu'il faut faire aussi sur un disque dur, même un disque dur externe, quand on vend sur eBay ou sur Le Bon Coin, ça suffit pas de tout virer, de vider la corbeille Windows, ça ne suffit même pas de le formater, en fait. Hein. Il faut vraiment... Il y a des algorithmes qui sont capables de réécrire plusieurs fois des données aléatoires. En fait, c'est ça le truc. Hein. C'est que ce qui se passe quand vous éliminez un fichier sur un disque dur, c'est que ce fichier, il n'est pas éliminé, tout simplement.
Il n'est pas en train de prendre une gomme et puis de supprimer l'information qu'il y a dessus, quoi.
Non, exactement. Parce que ce serait trop long, tout simplement, et c'est complètement inutile en général. Ce qui se passe, c'est que sur un disque dur, vous avez les données qui sont écrites sur le disque dur, physiquement, sur le disque, et vous avez une table qui s'appelle la table d'allocation des fichiers. C'est une table qui conserve en fait les informations sur la position des données du fichier et son nom, et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, quand vous appelez un fichier, l'ordinateur va voir dans la table d'allocation, il va voir où se trouvent les données titre du fichier sur le disque dur, il va les chercher, il va vous les afficher. Bon. Le truc, c'est que quand vous éliminez un fichier, eh bien, les données sur le disque dur ne sont pas éliminées, il y a juste l'entrée de la table d'allocation qui est effacée. Donc, les données sont toujours sur le fichier, sur le disque dur.
C'est comme si on supprimait l'annuaire, mais pas les numéros de téléphone derrière, finalement.
Tu supprimes l'annuaire, mais pas les gens qu'il y a derrière.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est bizarre, comme ce que je viens de dire. Mais bon, enfin bref. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut non seulement effacer les trucs de la table, mais il faut aussi écrire des données aléatoires sur le disque, et plusieurs fois, parce que, de manière assez étonnante, si on est vraiment très motivé, on peut récupérer des données, même une fois qu'elles ont été réécrites. Donc ça, c'est encore un autre problème.
Alors, c'est peut-être là où la limite de mes connaissances intervient, et je ne sais pas si on va pouvoir la franchir ce soir, mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement, à partir du moment où on réécrit une information, on est capable quand même de lire derrière. Enfin, je veux dire, c'est pas comme quand on écrit sur du post-it avec un crayon à papier un peu trop fort et qu'on lit le post-it de derrière. Comment ça marche ? Si, c'est le même principe ?
Oui, c'est le même principe. C'est-à-dire que on change l'orientation magnétique des secteurs sur le disque, mais en fait, ouais. Il peut y avoir des échos. Mais c'est pas accessible à des trucs.
On switch d'outils là, c'est plus des petites applications.
Oui, là c'est vraiment, oui, voilà, il faut vraiment être beaucoup beaucoup plus motivé pour sortir des données d'un disque dur qui a été vraiment bien effacé, tout ça. Non, en fait, bon, en général, dans l'immense majorité des cas, il suffit soit d'encrypter de manière solide le contenu du disque, ce qui permettra donc, ce qui revient à peu près au même, hein, c'est peut-être même mieux, soit avant de le vendre, il convient de prendre des outils qui vont écrire en plusieurs passes de données aléatoires sur tous les secteurs du disque avant de le revendre. Donc ça, c'est un conseil de base. Quand vous revendez des disques ou des choses qui peuvent contenir des données, il faut les effacer de manière sérieuse si vous voulez pas que des petits malins s'amusent à récupérer des données sur vous. Mmh. Ça se fait. Et l'usurpation d'identité, ça arrive pas qu'aux autres, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ben voilà, vous serez averti au-delà des backups que vous faites probablement déjà maintenant quand vous changez d'appareil, pensez aussi à cette notion. On va faire un petit chapitre jeux vidéo. On sait que ça t'est relativement cher, Guillaume, d'autant qu'il y a des petites choses qui te parlent.
Mais toi, tu t'en fous.
Non, bah, écoute, franchement, d'une part, j'ai pas grand-chose qui m'a marqué parce que dans les fils Twitter, il y a des choses qui peuvent remonter, mais en plus, je me suis pas forcément donné un petit peu l'énergie ni le temps de le suivre. J'avoue que c'était pas forcément dans mes priorités, mais j'ai pas l'impression qu'effectivement, on en parlait juste avant, il y a eu un engouement complètement incroyable sur cette E3.
En fait, le truc, c'est qu'il y a eu des jeux, quoi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, donc c'était intéressant pour les jeux, mais c'est vrai qu'au niveau matériel, et nous, c'est vrai qu'on est plus intéressé par le matériel dans ce podcast, il n'y a pas eu des trucs foufou.
Oui, et puis les dernières consoles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc,
voilà, donc en fait, bon, il y a eu des trucs marrants, hein, comme par exemple le Star VR là dont on avait parlé, puisque moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de réalité virtuelle.
Ah oui, tu nous l'avais vendu comme ça en plus.
Ouais, exactement. Et bon, il y en a eu quand même, mais il y a eu l'annonce d'Oculus juste avant qui sort donc avec une manette Xbox. Ça m'a tué, mais bon. Et un support Xbox One, en fait tu peux envoyer ta Xbox One sur un écran virtuel, un grand écran virtuel via l'Oculus. Bon, c'est assez étonnant, une sorte de, je sais pas, Microsoft s'est raccroché à Oculus à la dernière minute. Ça m'a bien fait rigoler, mais bon, pourquoi pas, après tout. Il y a eu des démos de jeux plus ou moins excitants sur Morpheus aussi. Bon, plus vrai que... Mais bon, il n'y a pas eu énormément de trucs vraiment nouveaux, sauf le Star VR, de mon point de vue, qui est rigolo, parce que bon, alors comme je te disais, voilà, qu'est-ce que c'est un casque de réalité virtuelle ? C'est un écran de téléphone portable qu'on te met devant les yeux avec deux grosses lentilles pour pouvoir focaliser dessus, sinon tu peux pas. Et le champ de vision qui est pris en fait par le casque, il dépend immédiatement de la taille de l'écran qui est placé devant et la distance à laquelle tu le regardes. Comme tu dois focaliser dessus, la distance à laquelle tu le regardes, elle est conditionnée par la focale de la lentille qui est fixe et qui peut pas être si petite que ça, parce que bon, après les lentilles doivent être vraiment beaucoup plus puissantes et ça pose d'autres problèmes. Donc à une lentille donnée, finalement, c'est la taille de l'écran qui conditionne le field of view, le champ de vision, oui. L'angle de vision que tu as et donc l'immersion aussi que tu ressens. Et donc c'est un petit peu ce qui handicape relativement, hein, on va dire, puisque tout le champ de vision n'est pas pris par un Morpheus, par exemple, et on voit un petit peu les bandes noires sur les côtés. Mmh. Et pour donc des mecs de Starbreeze se sont dit, mais pour remédier à ce truc-là, nous, on a l'idée du siècle. Pourquoi est-ce qu'on prend un seul écran de portable ? On a qu'à prendre deux écrans de portable, un par
Révolution.
Boum ! Et donc, et les voilà qui te foutent un écran en quad HD par œil. Donc ça donne une résolution totale de 5120 par 1440 hein, quand même, et 210 degrés de champ de vision, autant dire que vous voyez pas les bords, et que là, l'immersion est totale.
Ouais, je sais pas quel est le champ de vision naturel de l'être humain, si toi,
environ 180.
D'accord, donc ça dépend.
En latéral, en horizontal.
Impressionnant, ouais.
En horizontal, donc je suppose qu'il parle aussi de 210, je pense que c'est suffisant pour que tu vois pas du tout les bords, quoi, en fait. Ouais. Hein. Et du coup, bon, bah, c'est génial, en fait, parce que là, l'immersion est totale, et je pense que c'est probablement le meilleur casque. Mais il y a quand même un souci, parce que moi, je pense à moi qui vais peut-être acheter un Oculus l'année prochaine, et je me dis, mais il faut quand même le PC qui va avec.
Et déjà, oui, l'Oculus... Faire tourner deux écrans 4K comme ça...
Ouais, parce que déjà, l'Oculus, c'est plus que du 1080p, et pour éviter de vomir ses boyaux, il vaut mieux envoyer une fréquence de rafraîchissement très élevée. Donc là, on est à plus de 60, hein, on est à 80, voire 130 images par seconde. Donc, j'aimerais bien savoir quel PC, à l'heure actuelle, est capable de rendre 5120 par 1440 pixels à 130 images par seconde, en gérant derrière le jeu et les capteurs. Ça, j'aimerais bien voir.
Effectivement, il va falloir de la ressource et bon, j'imagine que forcément, si c'est nécessaire, ça arrivera. Mais c'est pas si finalement simple comme révolution, j'imagine, effectivement. Il y a autre chose aussi qui t'a marqué dans l'univers de la console, alors peut-être quand même un peu plus en lien avec notre chronique des composants. C'est quelque chose autour de la Xbox One, on va en dire du bien, Guillaume.
Oui, parce qu'en fait, bon, alors on dit du bien, mais dans une certaine mesure, je suis assez perplexe aussi. Bon, la Xbox One se dote d'une rétrocompatibilité. Ça, c'est un truc de fou. C'est un truc que tu avais d'ailleurs pointé. Hein. C'était un petit peu embêtant que tu puisses pas utiliser tes jeux Xbox 360 sur Xbox One. Bon, surtout au début, c'était un petit peu embêtant.
Juste pour info, rappelle-nous rétrocompatibilité, PS3, PS4. Comment c'est tout ça, pareil, c'est pas possible.
C'est pas possible du tout. Non. Okay. En fait, l'explication, elle est toute simple. Hein, c'est que les
commercialement, c'est plus intéressant de vendre deux consoles. Non.
Pas du tout.
Faire racheter la console. Non, ça a rien à voir.
Pas du tout. Pour une fois, la justification, elle est pleinement technique. Et donc, bon, on peut rien dire. C'est pour ça qu'en fait, j'en veux pas des masses non plus, ni à Sony, ni à Microsoft pour ça. C'est que l'architecture interne des consoles est très, très différente d'une génération à l'autre. Alors,
mais parce que les générations, c'est plus des consoles qui sortent tous les ans. Maintenant, c'est des consoles qui sortent tous les... à peu près 5 ans.
Non, mais oui, mais c'est même pas une idée histoire de. Non, en fait, c'est même pas une histoire de temps. Hein. C'est juste que ce sont pas les mêmes processeurs. Ce sont pas les mêmes architectures.
Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en 4 ou 5 ans, les processeurs évoluent tellement que forcément, on voit des profils complètement différents d'une structure de console à l'autre, non ?
Oui, mais non, en fait.
D'accord.
Non. Alors, pareil, un exemple tout simple. Hein. Un exemple tout simple, c'est GameCube, Wii, Wii U. La GameCube, la Wii et la Wii U, elles sont rétrocompatibles. Ouais. La Wii est rétrocompatible avec la GameCube. Pourquoi ? Parce que les processeurs qu'il y a dedans sont les processeurs graphiques et le processeur central sont de la même famille. Mm-hmm. Donc ils se comprennent. Et en fait, la rétrocompatibilité de la Wii, elle est matérielle. Mm-hmm. La rétrocompatibilité de la Wii U, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours du PowerPC à l'intérieur, donc c'est la même famille que la Wii. Mm-hmm. Donc la Wii U est rétrocompatible de manière matérielle avec la Wii.
La GameCube. Non.
Non, mais ça, c'est un choix commercial, par contre.
D'accord.
Ouais. Ouais, ça, c'est plus... Ça pourrait, je pense, en fait, techniquement, mais bon, ça, c'est pas fait. Par contre, là où on est... là où ça, c'est pas du tout le cas, c'est que la Xbox 360 utilise une architecture PowerPC, donc avec un tricore PowerPC à 3,2 Go, alors que la Xbox One, elle utilise un octocore Intel à 1,6 Go.
Ouais, d'accord, ok, d'accord.
Donc ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes familles, ils parlent pas du tout le même langage.
C'est comme la rétrocompatibilité entre des applications Mac avant le passage à Intel et après le passage à Intel, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas les... On parlait d'ailleurs, au podcast d'avant, on parlait de ce que j'appelais les architectures de processeurs, et j'avais dit que ça, en fait, c'était pas... Ça revenait à dire qu'ils n'étaient pas la même famille, qu'ils n'avaient pas le même langage, et qu'ils se comprenaient pas, qu'ils n'étaient pas compatibles entre eux. Tu te souviens de ça, sans doute ?
Oui.
Et en fait, c'est exactement le cas pour le cas 360 Xbox One. C'est-à-dire la 360 parle le PowerPC et la Xbox One parle le Intel.
Jusque-là, tout va bien.
Et donc, ils se comprennent pas du tout. Donc, un programme
tout va bien. Pas vraiment, 360 mais...
ne peut pas s'exécuter sur Xbox One. Pas du tout. Et en fait, même la carte graphique, d'ailleurs, elle n'a pas exactement non plus la même gueule. Mmh. Et même si on regarde la structure, comme je disais, du processeur, bon, le processeur, il a trois cœurs cadencés très haut à 3,2 Go pour la 360, alors que là, la Xbox One, elle a beaucoup de cœur, mais qui sont cadencés beaucoup plus bas.
D'accord.
Tout ça pour dire que la rétrocompatibilité sur Xbox One, c'était pas un problème. Alors, c'était aussi un gros problème technique. Mmh. Et je suis vraiment sur le cul, hein, je peux le dire. Qu'ils annoncent la rétrocompatibilité Xbox One des jeux 360.
Alors comment Dieu est-ce possible ?
Alors c'est par émulation. Donc en fait c'est comme quand vous essayez d'émuler une Super Nintendo sur votre PC, sauf que là il faut émuler une Xbox 360 avec une Xbox One et que c'est pas du tout de la tarte.
Et que ça rame pas accessoirement.
C'est même en fait un petit miracle d'ingénierie. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que Microsoft doit mettre des moyens, à mon avis, très importants d'ingénierie pour chaque jeu émulé. Mmh. Tout simplement parce que c'est très compliqué. Les processeurs ne parlent pas le même langage, donc c'est-à-dire qu'il faut traduire. Mmh. Il faut traduire à la volée et il faut traduire à la volée chaque instruction. Et il faut traduire à la volée chaque instruction pour il faut dispatcher sur des processeurs qui vont plus vite que le processeur que tu as. Tu vois, tu as plus de processeurs, mais le processeur que tu as, il va plus vite. Enfin, en tout cas, il vit pas à la même vitesse. C'est un truc de malade mental. Et je suis surpris quand même que ça puisse fonctionner de manière correcte. Et pourtant, c'est le cas. Ça fonctionne de manière relativement correcte. Donc, moi, je dis chapeau, quoi.
Quand
chapeau.
Tu dis ça fonctionne de façon relativement correcte, c'est que c'est transparent pour l'utilisateur. Ça fonctionne aussi bien qu'une Xbox 360 pour les jeux ou...
Globalement, oui. Mais la liste de compatibilité, elle est limitée pour l'instant.
Ok, d'accord.
Parce qu'elle est relativement longue. Mmh. Ce qui doit vouloir dire qu'ils font probablement...
Travailler au cas par cas.
Ouais, ce qui est absolument incroyable, quoi. Et d'ailleurs, je me pose même la question de savoir à quel point c'est rentable d'allouer autant de ressources à la rétrocompatibilité, qui est pas non plus un truc décisif, quoi, tu vois.
Ou à quel point ils sont dans la merde avec la Xbox One aussi, peut-être, non ?
Écoute, je sais pas, en tous les cas.
Commercialement parlant, j'entends.
En termes d'image, c'est vrai que c'est très sympa. C'est bon. Encore une fois, je leur dis, c'est au niveau de l'ingénierie, c'est très compliqué parce que les deux consoles sont très différentes et que finalement, la Xbox One n'est pas tellement plus puissante que ça, que la Xbox 360, pour avoir le loisir de faire la traduction en temps réel, quoi. Donc c'est vraiment très joli, ouais.
Et puis alors, on va rester dans l'émulation et dans les jeux vidéo parce que, mais là, dans des proportions et des générations différentes, Guillaume.
Oui, pour rester sur l'émulation, j'ai vu passer une vidéo où j'ai vu Dolphin, qui est un émulateur GameCube, tourner sur un Tegra X1 et de manière jouable. Et c'est ça qui m'a le plus étonné, parce qu'en fait, Dolphin existe sur Android, hein, il a déjà été utilisé sur Tegra K1 avec un certain succès, mais il fallait quand même avouer que ça ramait pas mal. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que le Tegra X1, qui, je le rappelle, est donc une puce Nvidia qui équipe les shields. Là, tout s'appelle Shield hein, chez Nvidia, mais en l'occurrence, là, je parle de la petite console de salon qu'ils ont présentée il n'y a pas si longtemps que ça, qui supporte la 4K et tout, voilà, bon. Et ce truc-là, en fait, est capable, via Dolphin, d'émuler une GameCube. Et il faut quand même se dire que c'est pas si mal, parce que la GameCube, elle n'est pas si vieille, en fait. Et tous ceux qui ont essayé d'émuler une PS2 ou une GameCube sur leur PC se rendent compte que c'est pas si simple d'émuler de manière à pleine vitesse, en fait, une machine... qui date pourtant des années 2000, hein, sur un PC même puissant, donc ils peuvent se dire effectivement que la rétrocompatibilité Xbox One, ça a dû filer des cheveux blancs à pas mal d'ingénieurs, quoi.
Ouais.
Mais bon, c'est aussi pour rendre hommage, honnêtement, hein, aux développeurs de Dolphin et à tous les développeurs d'émulateurs qui font un travail incroyable, vraiment, hein, pour réussir à ressusciter des vieilles consoles ou à rendre compatibles des jeux sur d'autres plateformes. C'est un travail hallucinant, dont on ne s'en rend pas compte, en particulier dans les cas les plus complexes, comme la GameCube, par exemple, est un cas complexe, hein, il faut le dire, parce que on peut se demander comment ils font, l'émulateur, comme j'ai dit, comme les processeurs ne parlent pas le même langage...
Mais c'est comme la virtualisation, non ?
Non, pas tout à fait, parce que la virtualisation, quand tu virtualises un Mac sur un PC, c'est le même processeur. Les processeurs de Mac et de PC sont les mêmes. Donc en fait, il n'y a pas à faire de traduction simultanée. Tout ce qu'il faut faire, c'est virtualiser les entrées-sorties. C'est-à-dire, il faut faire croire que tu as un autre disque, une autre, voilà. Il faut privatiser les espaces mémoire et ce genre de choses. Mmh. Mais globalement, le programme s'exécute de manière non modifiée. Mmh. Par contre, si tu fais tourner une Super Nintendo sur ton PC, la Super Nintendo, c'est pas du tout un processeur Intel, ça n'a rien à voir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simuler l'intégralité de la machine de manière software. Donc il faut simuler son espace mémoire, simuler son espace mémoire vidéo, et il faut aussi simuler le comportement de la carte graphique, et il faut, pour chaque instruction du processeur qui est à destination de la Super Nintendo, il faut le traduire en instruction compatible avec ton ordinateur, donc un truc Intel. Et tu fais ça pour chaque instruction, il faut, ça veut dire que pour chaque instruction qui est exécutée, il y a tout un petit programme qui est exécuté sur ton processeur, sur ton ordinateur. C'est pour ça qu'il faut un ordinateur tellement puissant, tellement plus puissant que la machine d'origine.
Ouais, c'est intéressant.
Et du coup, comment faire quand la machine que tu veux émuler est vraiment puissante et que ta machine, elle n'est pas 10 fois ou 100 fois plus puissante que la machine que tu veux émuler. En général, on utilise des trucs qui sont extrêmement complexes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la traduction simultanée mot à mot, c'est-à-dire instruction à instruction, on fait de la recompilation dynamique. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend le programme complet ou des morceaux de programme dont on recompile des morceaux, les morceaux les plus fréquemment exécutés, et on les exécute directement en natif sur le PC et on recompile à la demande. C'est considérablement plus complexe et c'est une véritable performance. Et c'est comme ça que Dolphin fonctionne. C'est comme ça qu'on arrive sur une micro-console à brancher sur la télé à émuler une GameCube. C'est vraiment très impressionnant en fait.
Ok, est-ce que ça veut dire que le travail se fait au niveau du comportement et de l'émulation matérielle, c'est-à-dire je reproduis les comportements de parce que je mets ça en perspective de ce que tu nous expliquais pour la Xbox One et sa rétrocompatibilité avec les jeux Xbox 360. Dans le cas que tu décris, ça laisse imaginer que les mecs qui sont derrière le développement ont interprété la manière dont fonctionnait la machine en logiciel. Et dans le cadre de la Xbox One et 360, tu laisses imaginer que c'est pas dispo pour tous les jeux et donc qu'il y a un travail au niveau du jeu lui-même ou de la réinterprétation du jeu. Comment ça se passe exactement?
Oui, je pense qu'il faut. Alors, en fait, c'est d'autant plus complexe sur une console de jeux vidéo parce que sur une console de jeux vidéo, les développeurs ont tendance à optimiser leur jeu pour le hardware. Donc, à utiliser tous les détails du hardware.
Comme ils savent que c'est telle machine qui le fera tourner.
Exactement. Donc, ça veut dire potentiellement, il y a plein d'appels aux API qui ne sont pas forcément standards. Bon, par exemple, voilà. Sur un jeu PC. Un jeu PC pour afficher un truc, il appelle une librairie graphique DirectX, et puis voilà. Bon, en fait, si tu veux exécuter un jeu PC sur Linux, par exemple, il suffirait, entre guillemets, bien entendu, d'intercepter les appels qu'il fait à DirectX, de les traduire en temps réel en OpenGL. Et hop, boum, c'est affiché sur Linux. Bon, du coup, ça devient faisable. C'est pas simple, mais c'est faisable. Donc, en fait, sur Xbox, ça se passe pareil. C'est-à-dire que les appels graphiques sont interceptés et sont traduits en appels graphiques et qui sont compatibles Xbox One. Le fait est que c'est beaucoup plus simple si chaque jeu respectait le set DirectX, un set limité de commandes. Ce qui est probablement pas le cas, tout simplement parce que les développeurs, sachant très exactement sur quel hardware ça va tourner, il est très probable qu'ils puissent, enfin, il est possible qu'ils puissent accéder eux-mêmes au hardware, utiliser des trucs très spécifiques, ce qui rend l'émulation, l'émulation générale, généraliste, extrêmement complexe, voire sans espoir. Et je pense qu'en fait, ils sont capables, effectivement, enfin, ils sont capables de faire une rétrocompatibilité uniquement parce qu'il y a une équipe d'ingénieurs allouée à chaque jeu, quoi.
Ah, d'accord, je comprends.
Et d'ailleurs, c'est très probable aussi qu'ils doivent probablement être aussi en contact avec les développeurs. Pour avoir une idée de ce qu'ils ont utilisé, comment.
À la limite, est-ce qu'ils peuvent essayer de tenter de récupérer le code source, parce que c'est peut-être.
Peut-être pas jusque là, mais disons qu'il y a pas mal de trucs que les développeurs peuvent leur dire aussi, quoi, hein, qui peuvent les aider. Donc c'est. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est une débauche de. Enfin, je trouve que voilà, c'est à saluer. En même temps, c'est quand même une débauche de ressources que je trouve un petit peu disproportionnée, quoi.
Ouais, mais comme on a écouté le dernier Tech Café, on sait qu'il y a de plus en plus de disponibilité de ces gens-là, parce que de toute façon, on est tous remplacés par des machines. C'est la raison pour laquelle on commence à avoir des activités intellectuelles débiles de ce type-là. Mais néanmoins, très intéressante de par leurs résultats pour des mecs comme nous. Merci beaucoup Guillaume, c'est super intéressant encore une fois d'aller se balader dans le monde de la microélectronique et puis il n'y avait pas foisonnement de news ces derniers temps et puis malgré tout on voit qu'il y a toujours des jolies choses à relayer. Moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette histoire de benchmark sur 10 ans, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'est-ce qui évolue en 10 ans de microélectronique et quels sont les impacts sur les usages. Donc merci beaucoup Guillaume, rendez-vous pour une prochaine chronique des composants. Vous le savez maintenant, Tech Café est indépendant de cette seconde émission, j'allais dire, Chronique des composants. Tout ça est dans le même flux. Abonnez-vous, déposez vos commentaires aussi sur iTunes ou sur le site techcafé.fr pour nous faire vos retours. On lit tout et on y répond quand ça s'y prête. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Guillaume. Ciao.
Au revoir.